Alors, je suis avec Régis Barbier. Régis, vous êtes fondateur et président de Hidaya. Alors, Hidaya, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelait Cartegie, que vous avez créé il y a 30 ans, je crois.
C'est ça, tout à fait, oui.
Et donc, en fait, à l'origine, vous travaillez sur le marché des ventes de données, plutôt dans le domaine du marketing direct au départ.
C'est ça. Au départ, donc, c'est un marché qui était très porteur à l'époque, qui consistait effectivement à fournir de la data à des annonceurs qui faisaient du marketing direct. Donc, sur un marché de la data et justement de la donnée qui était relativement figé, parce qu'on avait accès à peu de choses à l'époque. C'était surtout la partie B2B, le fichier Sirène qui était quand même déjà à l'époque existant. Et puis sur la partie B2C, on allait se chercher certainement de l'information sur les annuaires, puisque France Télécom avait à l'époque monopole sur les annuaires. Et donc, et c'est lui qui disposait de la plus grosse base de données issue du téléphone et qu'on utilisait pour faire nos campagnes. Voilà, donc c'est parti sur cette partie-là. Donc, c'est pour ça que ce marché, en fait, il existe depuis très longtemps. Il était figé, comme j'expliquais, et il s'est ouvert le jour où, effectivement, Internet est arrivé. C'est là qu'on a commencé à avoir de l'information qui arrivait d'autres horizons et donc qui permettait de commencer à ouvrir ce marché. Et plus ça avançait et plus effectivement la data commençait à être disponible de manière volumineuse. Et c'est là qu'est arrivée cette notion de big data où la donnée a explosé et on s'est rendu compte en même temps que cette donnée elle avait une valeur. La valeur qu'on y mettait à l'époque, c'était juste sur faire des campagnes et puis voilà, sur des grosses volumétries. Mais on s'est rendu compte au fil du temps, et surtout les clients d'ailleurs, les clients se sont rendus compte qu'ils disposaient d'une masse d'informations qui n'était jamais exploitée. Parce que ce n'était pas nécessaire, parce qu'on n'y pensait pas, parce que voilà, c'était comme ça. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une valeur sur la donnée. Et on est arrivé sur cette notion de monétisation, parce que en fait, dans nos métiers, même si aujourd'hui on fabrique aussi de la donnée, le métier de base, ça consiste quand même à aller chercher de la donnée chez des partenaires. Et les partenaires, ce sont souvent historiquement des boîtes de VPC, des VPCistes. Donc depuis longtemps, il existait aussi ce travail qui consistait. J'ai cité l'annuaire France Télécom, mais il y avait aussi quelques opérateurs, quelques gros opérateurs donc de VPCistes qui disposaient de bases de données très importantes, la Redoute, les Trois Suisses, etc. Et donc ces gens-là, ils avaient beaucoup de data et ils la commercialisaient. Donc on allait chercher aussi de l'information chez ces gens-là. Et donc ce marché-là a commencé à grossir beaucoup plus, etc. Et d'autres annonceurs sont arrivés. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont aussi dans le e-commerce, puisque la VPC c'est devenu e-commerce. Donc, ce sont des gens qui ont grossi très vite, qui ont constitué des grosses bases de données, et on est venu aussi se servir à ça. Dans le marché, je travaille avec des partenaires qui ont des bases de données. Ces bases de données, à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'elles ont une valeur, ils souhaitent les commercialiser. Et nous, on va arriver là un peu en tant qu'intermédiaire, on va mettre de la valeur ajoutée sur toutes ces datas, et ensuite donc on va la proposer à nos clients. Voilà, ça c'est le marché de la vente de données. Alors on dit vente de données, c'est pas toujours si simple. On vend pas forcément, on peut aussi faire des campagnes hein, où on garde tout. La donnée est activée juste au moment de la campagne et ensuite c'est fini, on passe à autre chose, etc. Voilà donc. Donc ce métier de la data, nous on l'exerce, voilà, maintenant ça fait 30 ans, il a beaucoup évolué et d'arriver ensuite toutes les contraintes qu'on a commencé à mettre en face de data, et notamment ce fameux RGPD qui aujourd'hui donc essaie de réguler un peu cette information et donc dans un contexte de dire protéger le consommateur, parce qu'on est allé dans un certain nombre d'excès. Bon, disons que tant qu'on faisait que du postal, ça allait à peu près, même s'il y avait des gens qui râlaient un petit peu parce qu'on inondait les boîtes aux lettres, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et ensuite, ça a été la vague des emailings. Les emailings, c'est pareil, il y a eu surconsommation d'emailings, donc les gens ont commencé à râler. Les téléphones, pareil, c'est un canal qui s'est saturé un petit peu, qui est toujours difficile d'ailleurs parce que il y a des choses sauvages, on en parlera tout à l'heure, qui continuent à exister. Voilà quoi. Les canaux se sont multipliés au fil du temps avec un certain nombre d'excès dans tous les sens. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a un régulateur qui s'appelle la CNIL. Alors il y a d'autres canaux aussi qui sont générés, hein, qui vient essayer de mettre un peu d'ordre parce que voilà, ça fait un peu pagaille, les gens sont un peu agressés avec tout ça et ils essaient de mettre un peu d'ordre. Voilà, ça c'est la tendance un petit peu générale. Pour reparler un peu de Big Data, au-delà du fait, en fait d'aller chercher des partenaires pour passer des accords de commercialisation de leur data et donc de faire de la monétisation, on a nous-mêmes créé une cellule Big Data parce que nous-mêmes, nous allons fabriquer de l'information. Ça fait quelques années déjà que, par nos propres moyens, au travers notamment de scrolling du web, on va et d'autres choses, on va fabriquer de la donnée. Donc, en fonction du marché et des demandes qui peuvent être exprimées, on regarde si nous, de notre côté, on peut effectivement donner un certain nombre de choses et d'indicateurs, qui d'ailleurs, à l'arrivée, sont pas forcément de la donnée adressée, mais qui peuvent être de la statistique et qui peuvent être des informations qui vont amener de la valeur ajoutée et qui vont être aussi rentrées dans notre entrepôt et qui vont servir donc souvent à faire de meilleurs ciblages, à faire de la qualification de données de nos clients, etc., etc., etc. Voilà.
Est-ce qu'on parle de vente de données elle-même ou est-ce qu'on parle de vente de sets de données anonymisés?
On va aider nos clients à trouver de nouveaux clients. Donc on va être sur de la prospection, par exemple. Donc en fait, on va faire à partir de nos entrepôts, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on a des très gros entrepôts, hein. Nous, on dit, à force de passer des accords de partenariat, etc., on constitue des gros entrepôts, que ce soit en B2C ou que ce soit en B2B, parce que nous, on est sur les deux secteurs. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on a l'exhaustivité de toutes les entreprises françaises. On a 40 millions de consommateurs français, avec un certain nombre d'informations, des informations de terrain, des informations, etc. Et ça, en fait, avec tout ça, ben, on va travailler avec nos clients pour monter des actions de marketing, en fin de compte, dont la finalité, effectivement, de leur offrir des leads, des nouveaux clients, etc. Ça, c'est un peu la finalité. Donc, on vend pas de la donnée, on vend en fait de l'information qui vont permettre en finalité à nos clients de gagner des parts de marché. Donc, vous pouvez recevoir un email d'une société qui est basée en Russie, vous ne saurez même pas qu'elle est basée en Russie, et vous avez un message qui arrive, vous hurlez, mais on ne peut pas remonter parce qu'en fin de compte, il sort d'un pays qui sort de l'Union européenne. Donc ça, très difficile à maîtriser. Les téléphones, c'est pareil, enfin voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, ça peut faire hurler des gens, mais en fin de compte, on n'y est pour rien, quoi. Voilà. Même si vous appliquez la déontologie au niveau européen, ben voilà, vous ne pouvez l'appliquer qu'à ce niveau-là. La CNIL ne peut pas poursuivre. La CNIL, d'ailleurs, elle a que le territoire français. Il y a une CNIL par pays, hein, qui pratique aussi ou qui interprète les lois pas forcément de la même manière. Et après, vous avez tous ceux qui sont champs Union européenne. Et là, c'est l'auberge espagnole. Hein, voilà.
Donc
Et des listes,
finalement,
des listes, ça circule. Hein, voilà, ça a toujours circulé aussi. Hein. Il y a des gens
oui.
qui peuvent aussi travailler en faisant du crawling sur les réseaux sociaux, sur les sites web, qui vont constituer des listes comme ça.
Ouais.
Et voilà, ça,
Donc
c'est quand même
finalement,
partout.
l'impact du RGPD finalement est assez mineur.
C'est-à-dire aujourd'hui, on a fait beaucoup de battages par rapport à ça. Et en réalité, qu'est-ce que ça a amélioré vis-à-vis du consommateur? Enfin, moi, tous les gens qui sont dans mon entourage, ils n'ont jamais été harcelés au niveau du téléphone. Les emails, ça continue. Donc, on voit bien que, de toute façon, l'information, ben, elle continue à être collectée, notamment par l'État, de manière éhontée. Donc, non, je pense que la protection du consommateur, enfin, de l'individu, on ne l'a pas améliorée, hein.
Et est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, une meilleure protection du consommateur et comment vous verriez
Je
justement
suis
peut-être
pessimiste. Je suis
un
pessimiste.
spécialiste?
Alors, oui, je suis pessimiste parce que, si vous voulez, au niveau de la CNIL, Il y a aussi, on veut faire une protection, si vous voulez, la CNIL a dit, je veux protéger le consommateur ou l'individu par rapport donc aux entreprises. Pour finir, Bercy a dit clairement qu'il allait s'attaquer à donc scanner les réseaux sociaux pour essayer de
Ah oui.
voir s'il y a des gens qui fraudaient pas en fait au niveau des impôts, parce qu'ils affichaient sur les réseaux sociaux des choses qui faisaient que le niveau de vie qu'ils montraient était pas du tout en correspondance avec l'impôt qu'ils payaient. La question à se poser, c'est comment nous, citoyens, on peut empêcher ça et est-ce qu'on peut l'empêcher? Et si on ne peut pas l'empêcher, comment on vit avec?